Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à vous tous. Voilà, bienvenue à vous toutes et à vous tous si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. C'était un petit faux départ. On est ravis de vous retrouver pour une heure de Punchline en compagnie de Julien Drey. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Fondateur du mouvement Réinventé et de Gilles-William Golnadel, avocat. Bonsoir à vous.
Madame Ferrari.
Cher maître, beaucoup d'actualités politiques évidemment. Oui. Vous souhaitez l'aborder. On va peut-être commencer par l'affaire Damien Abad, puisqu'il faut bien l'appeler désormais ainsi. Premier des conseils des ministres ce matin pour le nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées. Très critiqué, vous le savez, après la révélation de plainte le visant pour agression sexuelle et pour viol. On va y revenir dans un instant et en détail, mais d'abord les explications de Viviane Hervé.
Le premier conseil des ministres d'un nouveau gouvernement est traditionnellement un moment fort de la vie politique. Mais pour son baptême du feu, Elisabeth Borne a dû faire face à la polémique autour de Damien Abad. Son nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées fait face à deux accusations de viol. Et à la sortie du conseil des ministres, il est interpellé par des journalistes.
Est-ce que vous contestez formellement les accusations, monsieur Abad ?
À peine audible, ce « bien sûr » fait suite à un communiqué publié ce week-end par Damien Abad.
Je conteste avoir exercé quelque forme de contrainte, que ce soit sur aucune femme. Ces accusations relatent des actes ou des gestes qui me sont tout simplement impossibles en raison de mon handicap.
Selon les témoignages recueillis par Mediapart, l'une des deux femmes pense avoir été droguée après avoir pris une coupe de champagne avec Damien Abad lors d'une soirée en 2010. L'autre plaignante, la seule à avoir porté plainte en 2017, a vu cette plainte classée sans suite faute d'infraction suffisamment caractérisée. À l'issue du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, a réaffirmé que le gouvernement se tenait aux côtés de celles qui ont le courage de parler suite à une agression sexuelle, ajoutant que c'est à la justice de trancher.
La justice est la seule à devoir et à pouvoir trancher. À ma connaissance, au moment où nous nous parlons, aucune autre procédure n'est en cours à l'endroit de Damien Abad.
Elisabeth Borne a promis de tirer toutes les conséquences en cas de nouveaux éléments.
Voilà pour ces explications. Damien Abad s'est confié à nos confrères du Figaro. Il dit « Vivre ce que je vis est très difficile et franchement tout cela est vraiment bas pour moi, ma compagne et ma famille, c'est tellement injuste ». Il dit voilà, que ça arrive évidemment au moment où sa carrière politique prend un nouveau tournant. Julien Drey, comment est-ce que vous jugez cette affaire ? Oui, bah oui, l'avocat va prendre la parole ensuite.
Bien sûr.
est-ce qu'il faut, est-ce qu'il peut rester au gouvernement, Damien Abad ? Tout simplement.
Si vous voulez, ce qui m'étonne dans cette affaire, moi, je comme tout le monde, je connais rien à l'histoire, j'entends des versions totalement contradictoires. Lui-même joue d'ailleurs de son handicap pour dire que je suis incapable de le faire. Bon, ça peut être crédible quand on le voit. Après, je sais pas ce qui s'est passé, donc je suis toujours prudent dans ce genre de situation, parce qu'effectivement, il faut prendre en considération la parole des victimes, la parole des femmes, dans le monde dans lequel on est. Mais ce qui est étonnant, si vous voulez, et c'est en ce sens-là qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est que vraisemblablement, sa famille politique était très au courant de cela. Il y avait beaucoup d'informations. En tous les cas, c'est ce qu'ils disent tous les uns et les autres. Donc je ne vois pas comment, alors que sa famille politique était au courant, c'est pas remonté jusqu'au gouvernement. Et il y a autour du président de la République un certain nombre de gens qui ont des contacts directs avec les Républicains ou qui en viennent. Donc cette histoire me paraît pour le moins étrange.
Maître Golnadel, est-ce qu'il faut évidemment et comme toujours faire jouer la présomption d'innocence ?
Moi, je crois que la position du gouvernement est bonne. Alors, bien sûr, ce que dit Julien Drey, ce sont des hypothèses. Il est possible que les Républicains étaient au courant avant, mais même s'ils avaient été au courant qu'une plainte avait été classée, ça ne change pas grand-chose à cette pénible affaire. Et les gouvernements aussi auraient pu être au courant. J'imagine quand même que s'ils avaient été au courant, ils n'auraient pas pris cette décision-là. Mais on est dans les hypothèses. Moi, vous savez, j'ai un principe intangible, que j'ai d'ailleurs appliqué personnellement lorsque j'ai réagi à l'affaire Tahabouaf, en ce qui concerne les incriminations sexuelles, et que j'applique également en ce qui concerne M. Damien Abad. Alors, c'est peut-être l'avocat aussi qui parle, c'est l'homme, c'est tout ce que vous voulez, c'est le respect de la présomption d'innocence. Je pense d'ailleurs, de manière générale, je l'ai proposé mille fois, mais vainement, je pense que dans ces affaires-là, dans ces affaires sexuelles, on ne devrait pas évoquer le nom des gens avant la mise en examen. Mmh. À partir de la mise en examen, ça veut dire qu'il y a des présomptions, et dans ce cas-là, le droit à l'information l'emporte, si j'ose dire, sur la réputation de la personne en question, qui est toujours présumée innocente. Mais avant la mise en examen, c'est au-delà de la présomption d'innocence. Alors après, il y a les...
Ça veut dire qu'une victime qui parlerait, on ne pourrait pas relayer son témoignage.
D'abord, le mot victime...
Une femme, est... alors.
Oui. Sauf que moi, pardon de le dire...
Ce n'est pas la même chose.
Hein.
Ce n'est pas la même chose. Non, mais
moi, pardon de le dire, c'est tellement à contre-courant de ce que j'entends du matin jusqu'au soir. La parole d'une femme n'est pas plus sacrée que la parole d'un homme. Il y a des femmes qui disent la vérité et il y a des femmes qui mentent. Arrive. Hein. Il y a des femmes mythomanes, il y a des femmes...
Comme les hommes.
Oh là là. Et comment? Il y a des femmes qui veulent de l'argent, il y a des femmes qui veulent se venger. Dans l'humanité, vous savez, féminine ou masculine, il y a toute la palette. Donc, à partir du moment, par rapport au gouvernement, le gouvernement, je pense, à ne peut pas faire autrement. C'est pas très décoratif, j'en conviens. Hein. C'est pas terrible, ça commence mal. Mais dans cette conjecture-là, je crois que le gouvernement ne peut pas faire autrement que ce qu'il fait.
Julien Drey, sur ce qu'a dit Maître Bonnavel.
Bon, on est dans un moment particulier dans notre histoire, c'est-à-dire qu'il y a une libération de la parole, un ensemble de mouvements qui sont aujourd'hui partie prenante du débat politique, voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a un journal qui pose problème, si vous me permettez, c'est Mediapart, parce que j'arrive pas bien à savoir le rôle qu'il joue désormais. Alors bon, c'est pas toujours évident. Et la question qui est posée par Gilles Louliam, elle n'est pas totalement fausse, ceci dit. C'est-à-dire l'idée que tant qu'il n'y a pas une mise en examen, on ne jette pas en pâture le nom de quelqu'un, c'est au regard de ce qui peut se passer. Alors après, il faut effectivement quand même que les victimes elles puissent parler. Et il ne faut pas que ça devienne la loi du silence qui revienne. Mais il faut faire attention, parce qu'on est dans un moment effectivement où il suffit de jeter un témoignage... vos accusations, à partir du moment où la justice est en capacité de le prouver. Alors le problème, c'est qu'on est en plus dans des affaires très compliquées, parce que c'est des affaires qui reviennent des années après.
Là, on parle de plaintes de 2010 et 2011.
Voilà, qui reviennent après, des années après, sans qu'on ait forcément des témoignages qui soient très précis. Voilà, donc je pense que le gouvernement, dans cette affaire-là, je suis d'accord avec Julien, mais d'après moi, très ennuyé, et je comprends que la Première ministre ne soit pas contente.
Elle dit qu'elle n'était pas au courant.
C'est ça qui m'étonne, voilà. Regarde. Alors, ce qui m'étonne, c'est. Alors, est-ce qu'il y a un règlement de compte dans sa famille politique ?
C'est-à-dire que. Vous pensez que ça peut venir des LR, c'est ça ?
C'est la question qu'on peut se poser. Il a été mal vu, parce que c'est vrai qu'il a quand même joué un drôle de jeu en disant je reste à la tête, mais attendez, vous allez voir, c'était pas très élégant.
Il attendait que le gouvernement soit formé, quoi.
Voilà, il attendait d'avoir la certitude d'être ministre. Donc, c'est vrai que c'était pas très élégant à l'égard de sa famille politique. Donc, on peut penser qu'un certain nombre de ceux qui l'avaient accompagné jusqu'au bout, jusqu'à cette. Dans cette histoire, règlent un compte avec lui. Quoi.
Non. Non, mais c'est...
Il faut reconnaître que, au regard de l'ancienneté des faits, le moment où, quelques heures avant son entrée au gouvernement, Mediapart révèle ça, est un peu. Ça doit être un hasard cosmique. Ceci peut peser. Moi, pardon, j'ai une sympathie assez bornée pour M. Tahabouaf. Je n'ai pas non plus une immense affection pour M. Damien Abad et la manière dont il a quitté les Républicains pour obtenir un Marocain. Ceci posé, la présomption d'innocence l'emporte sur mes sympathies ou mes antipathies. Voilà, c'est ainsi.
Alors, la question qui va être posée, il a quand même la question qui va être posée, parce que c'est la réalité de la vie politique, c'est qu'il est désormais, face à ces accusations-là, et qui ne va pas s'en débarrasser dans les heures qui viennent. Et donc, pour tout gouvernement, à la veille d'une campagne électorale, ce n'est pas la meilleure situation. Donc, il y a une prudence qui aurait peut-être dû s'exercer, ou qui va peut-être s'exercer dans les semaines à venir. Alors, on sait que le président de la République déteste, comme il le dit lui-même, céder aux meutes, et que, y compris dans le dernier gouvernement, visiblement, il a confirmé quelques personnalités parce qu'il ne voulait pas. Mais on va voir.
Allez, on va faire une petite pause. On entendra peut-être Damien Abad dans quelques instants qui a décidé de s'exprimer ce soir pour justement démentir les accusations qui pèsent contre lui. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On On se retrouve dans Punchline tout de suite. On va écouter Damien Abad qui s'exprime depuis la mairie de Saint-Jean-le-Vieux dans l'Ain.
L'accusation à mon encontre avec la plus grande des fermetés. Toutes les relations sexuelles que j'ai pu avoir dans ma vie ont toujours été mutuellement consenties. Ces accusations m'infligent, comme à mon entourage, une blessure profonde. J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant. J'étais contraint, malheureusement, de le faire aujourd'hui pour me défendre et même de dévoiler mon intimité en détail en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles. Ce sont ici ma dignité et mon intégrité qui s'en trouvent atteintes. Je le répète avec fermeté, je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Vous comprendrez qu'aborder ces sujets publiquement est extrêmement douloureux pour moi. Désormais, je me consacre à ma mission de ministre, un ministre qui souhaite être sur le terrain, au plus près de la vie quotidienne des Français, garder les pieds sur terre, et je suis aussi pleinement engagé dans ma campagne législative comme candidat dans la 5e circonscription de l'Ain. Je vous remercie.
Monsieur Abad, vous allez démissionner.
Écoutez, un homme innocent doit-il démissionner? Je ne crois pas. Merci beaucoup.
Voilà pour les quelques mots de Damien Abad. Un homme innocent doit-il démissionner? Question qu'il a posée. Et il évoquait la blessure profonde que lui causait cette affaire, Maître Golnadel.
Bah, écoutez, je peux vous redire qu'il est présumé innocent et que dans cette logique, et qui est la sienne, si on le suit, effectivement, je ne vois pas pourquoi un homme innocent démissionnerait. Ce serait même une manière d'avouer une improbable culpabilité pour lui. Donc, c'est au nom de tous ces principes que j'approuve la ligne gouvernementale. C'est tout. Maintenant, tout est possible.
Hein. Julien Drey, sur la défense de Damien Abad, qui dit, je ne voulais pas mettre mon handicap en avant, mais les faits qu'on me reproche sont matériellement impossibles.
C'est toute la difficulté de cette histoire, si vous me permettez. Moi, je ne voulais pas évoquer, parce que ça, je vais lire
le handicap de Damien Abad.
Mal à l'aise d'évoquer ça. Mais ça nous vient à l'esprit. Bon, en même temps, tout est possible. Il y a des victimes qui disent qu'elles ont été droguées. La justice doit travailler. Je ne sais pas comment elle va faire, mais bon, il faut qu'elle travaille.
Oui, mais il n'y a pas de support. Parce que
il n'y a pas de support pour
l'instant. Deux plaintes ont été classées sans suite, comme nous le disait tout à l'heure Mario Bazac, et l'autre jeune femme n'a pas déposé plainte.
Non, le problème, c'est qu'on est toujours dans la même alternative. Vous avez une prise en considération qui doit exister, la parole des victimes, d'un temps nouveau où ces paroles-là sont prises en considération, sont écoutées. Elles ne peuvent pas non plus être prises pour... elles ne peuvent pas être une garantie absolue de vérité. C'est pour ça qu'on a inventé la justice. Et donc, il faut aussi faire attention, parce qu'on a eu aussi des histoires réelles où on a vu des accusations qui tenaient pas debout. Ça ne veut pas dire que ça jette l'opprobre sur la parole des victimes. Franchement, je vais être honnête avec vous, je confesse que c'est une histoire où je pense qu'on est les uns et les autres très ennuyés. Et ce serait malhonnête de ne pas le dire.
Maître Golnadel, le fait que le tribunal médiatique se déchaîne avant la justice, ça aussi, ça vous est insupportable?
Moi, je le vis comme une horreur. Je vis ça très mal au niveau des principes, au niveau de ces... Vous pouvez bien comprendre que dans une affaire, il y a une personne qui a porté plainte mais qui n'a pas été jusqu'au bout de ses plaintes, qui ne s'est pas constituée partie civile. Il y en a une autre qui n'a pas du tout porté plainte. Donc, comment voulez-vous que je considère que la cause soit entendue et que la personne doit démissionner? Seulement, le tribunal médiatique peut, si vous voulez faire du mal à quelqu'un, dans cette optique-là, si vous voulez descendre quelqu'un, c'est pas la peine de saisir quelque chose. Là, dans l'état actuel des choses, c'est même pas la peine de se donner le mal de saisir la justice. Le tribunal médiatique suffit à condamner à l'opprobre. Donc c'est difficile. Pardon, il n'y a pas de système. Il n'y a pas de système idéal. Hein. Je suis pas en train de vous dire que c'est un système idéal. Parce que des femmes violées, des femmes agressées, des femmes harcelées, ça n'est pas non plus une vue de l'esprit. Ça existe. Mais dans ce système imparfait, eh bien, je préfère l'imperfection de la présomption d'innocence avant tous les cas, et de pouvoir en parler que quand la mise en examen est décidée.
Un tout dernier mot de Sandrine Rousseau qui dit « Il doit être démis de ses fonctions. Il faut envoyer un message aux femmes que leur parole compte. » Julien Drey.
Non, le problème, c'est justement l'erreur que commettent un certain nombre de responsables politiques. Je pense que dans ce genre de situation, il ne faut pas passer sur les faits, Mais elle prend acte de ses paroles, mais elle a déjà condamné avant même qu'il y ait une enquête. Et c'est un problème, je veux dire. Ça ne jette pas l'opprobre sur la parole des femmes, loin de là. Mais il faut faire attention, quoi. Je veux dire, je pense que quand on est un responsable politique, confronté à ce genre de situation, il faut avoir de la prudence. La prudence ne veut pas dire, encore une fois, la complicité du silence, la volonté des d'un monde qui s'autoprotège. Bon, il faut faire attention, quoi.
Maître Golnadel.
La posture de Madame Rousseau me trouble, enfin, si j'ose dire, pour autant que je puisse être troublé par elle, mais doublement. D'abord, elle se conduit comme une tricoteuse pendant la Révolution. On foule aux pieds.
On lui donne un bon rôle.
On foule aux pieds la présomption d'innocence, d'abord. Mais encore, si elle n'était que cela, si elle n'était qu'un bloc de granit qui considère qu'il faut croire par avance la parole de toutes les femmes, à supposer même. Mais s'agissant de l'affaire Tahabouaf, par magie, elle était d'une plus grande modération. Au moment où je vous parle, je ne sache pas que, par exemple, l'article 40 ait été déclaré par les insoumises, justement, féministes distinguées, pour, justement, écouter jusqu'au bout les paroles des femmes. Je ne sache pas qu'elles se soient déchaînées contre Tahabouaf. Ça tombe bien, il est présumé innocent, Tahabouaf. Mais vous rendez compte, les deux poids, deux mesures? C'est-à-dire que non seulement elles sont impitoyables, mais elles sont impitoyables à géométrie variable. C'est le pire de tout pour moi.
Tu viendrais?
J'avais une plus belle vision des tricoteuses de la Révolution française. Je suis d'accord qu'on peut discuter, mais ça lui donnait déjà un rôle important.
Oh, écoutez, les tricoteuses qui expliquaient que Marie-Antoinette avait pris des libertés sur son fils, c'était pas terrible non plus.
Oui, c'est vrai.
Marie-Antoinette, très féministe, dit « et j'en appelle à toutes les femmes ». Et ça a d'ailleurs calmé, y compris les tricoteuses.
Alors, on va pas revenir là-dessus, que dans les tricoteuses, dans ce que vous appelez les tricoteuses, il y avait Olympe de Gouges. Au passage, qui n'a pas été rien dans le combat pour la cause des femmes, même si après elle a été guillotinée. Je pense que vous avez raison. C'est vrai qu'elle peut pas. Elle peut pas prendre une position comme elle le prend là aujourd'hui. Et c'est vrai que dans l'affaire Tahabouaf, alors qu'il y avait visiblement quelque chose, elle a participé, si vous me permettez, d'une conjuration du silence. Parce que c'est quand même ça qui s'est... Voilà, donc il y a d'un côté... Alors, pourquoi il y aurait, je dirais, une conjuration du silence pour un jeune des cités et des quartiers, et puis pour une personnalité politique de premier plan? Non, là, tout de suite, il y a... Moi, je pense qu'on doit avoir une position qui doit être honnête sur toutes les questions. Et donc, l'honnêteté consiste à dire, je suis prudent, je prends en considération la parole des victimes, je demande à ce qu'elles soient entendues, je demande à ce qu'on vérifie, avant de porter condamnation.
Une scène aussi merveilleuse en matière d'homophobie. En matière d'homophobie, c'est Tahabouaf qui ne veut pas être dans la même pièce qu'un homosexuel. Et comme pour toute explication, les insoumis disent qu'ils ont préféré ne pas entendre.
Très bien.
Voilà.
Bon, on va clore ce chapitre concernant Damien Abad, qui se dit innocent et qui n'envisage pas de démissionner. On a entendu sa déclaration en direct il y a quelques instants sur Europe 1 et sur CNews. On va s'intéresser maintenant à ce premier conseil des ministres qui s'est déroulé ce matin à 10h avec la nouvelle équipe formée autour d'Elisabeth Borne et évidemment à son ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, qui faisait sa première rentrée politique et qui s'est rendu juste après à Conflans-Sainte-Honorine dans le collège où exerçait Samuel Paty pour son premier déplacement. Il a rappelé son engagement pour la laïcité et l'universalisme. Néanmoins, sa nomination continue de provoquer toujours autant de réactions. On les écoute avec Éléonore de Vulpière et on en débat ensuite.
La polémique ne faiblit pas. Depuis qu'il a été nommé ministre de l'Éducation nationale il y a 3 jours, Pap Ndiaye est l'objet de toutes les critiques, à droite comme à gauche. Une nomination incompréhensible pour Olivier Faure, le premier secrétaire national du Parti socialiste.
On connaît très bien les positions de Jean-Michel Blanquer pendant 5 ans, qui nous a expliqué qu'il était en croisade contre l'indigénisme, contre le wokisme, contre l'intersectionnalité. Et voilà que dans ce gouvernement, vous avez celui qui a introduit la pensée woke en France, qui est maintenant ministre de l'Éducation.
Normalien, agrégé d'histoire et titulaire d'un doctorat, Pap Ndiaye est spécialiste de l'histoire de la minorité noire aux États-Unis. Auteur de plusieurs ouvrages sur les Noirs américains, il publie en 2008 « La condition noire, essai sur une minorité française ». Il est devenu l'an dernier directeur du musée de l'histoire de l'immigration. Un CV doublé de prises de position vertement combattues par le mouvement Reconquête, notamment par la voix de son vice-président exécutif, Guillaume Pelletier.
J'attends de lui, dans les prochaines heures, qu'il s'excuse.
Qu'il s'excuse ?
Oui, sur ses propos depuis 15 ans, qui vont faire tant de mal à nos enfants.
Quant à Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l'Éducation nationale et soutien d'Emmanuel Macron à la présidentielle, il a mis en garde ce lundi contre l'enterrement de la politique mise en œuvre par Jean-Michel Blanquer depuis 5 ans.
Il n'y a pas plus sûre méthode pour désorienter une grande institution comme l'Éducation nationale que de la confier tour à tour à deux ministres dont les philosophies de l'État s'opposeraient.
Une prise de fonction marquée par une levée de boucliers transpartisane et massive pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale.
Avant de passer la parole à Maître Golnadel, peut-être un mot de Julien Drey sur cette mise en garde de Jean-Pierre Chevènement contre l'enterrement, entre guillemets, du bilan de Jean-Michel Blanquer. Qu'est-ce que ça vous inspire, Julien Drey ?
Ça m'inspire que Jean-Pierre Chevènement, qui est un homme totalement respectable, n'a pas du bien à regarder quel était le bilan de M. Blanquer, parce que je pense que son bilan, justement, c'est ça qui explique qu'il n'est plus ministre de l'Éducation nationale. M. Blanquer, il a mené une croisade sur le plan idéologique, mais sur le plan de l'éducation nationale, vous allez regarder ce qui se passe avec Parcoursup, vous allez voir le bilan de la politique.
Le dédoublement des classes de CPC1, ça compte
pas ? Non, le dédoublement, bon, mais moi je vous parle de Parcoursup, je vous parle de ces rapprochements de matières qui font que plus personne, aucun élève n'y comprend rien aujourd'hui dans les filières qu'il faut le faire, je vous parle de ce qui se passe même dans les établissements scolaires où on n'a jamais eu aussi peu de profs, pourquoi les profs ne viennent plus ? Parce que ça marche pas. Et parce que les choses n'ont pas été faites comme il le fallait. Je vous parle pas des rythmes scolaires où on n'a pas avancé une seule seconde. C'est-à-dire qu'on est le pays encore où on enseigne les maths et la physique à 4 heures l'après-midi. Je vous parle pas du contenu des programmes où il faudra toujours m'expliquer pourquoi la théorie des ensembles.
Ça, c'est pas le ministre de l'Éducation, vous le savez très bien. C'est le Conseil national des programmes.
Oui, mais le ministre de l'Éducation nationale, il parle avec le Conseil des programmes. Il peut susciter un débat. Il peut mettre en place toutes les réflexions. Claude Allègre l'avait fait. Ça lui avait valu une levée de bouclier de tous les éditeurs, mais il l'avait fait. En montrant comment, justement, sur le plan des mathématiques, c'était devenu une manière de sélectionner les élèves, puisque ce qu'on faisait en terminale équivalait à ce qu'on faisait en bac en spé, en mathématiques spéciales, de deuxième année. Bon, voilà. Donc, je pense que là, sur le bilan, moi, j'aurais aimé justement que dans cette campagne présidentielle, on ait un débat sur le projet éducatif et sur le bilan de la situation dans laquelle se trouve l'éducation nationale. Alors, après, la question qui peut se poser, ça c'est vrai, c'est qu'on a l'arrivée d'une personnalité, M. Papendiaye, qui n'est pas, je dirais, marquée par une connaissance profonde du système scolaire. C'était pas le cas de M. Blanquer, qui lui venait de la machine éducation nationale. Est-ce que ce regard neuf va apporter des changements, ou est-ce que justement il va être tétanisé par ce qu'il va découvrir, parce que la réalité de l'administration de l'éducation nationale, c'est pas rien.
Avant de passer, Maître Golnadel, à ce que vous lui reprochez sur son supposé indigénisme, wokisme, que vous dénoncez, juste sur le fait que, comme le dit Julien Drey, il ne connaît pas la machine éducation nationale. Est-ce que c'est un handicap ou finalement
écoutez, ça peut être un atout ? On n'est pas obligé de nommer un agriculteur à l'agriculture. Voilà. Très sincèrement, ils ont des services, il peut avoir c'est un universitaire. Franchement, c'est pas ça que je lui reproche. Hein.
Oui. Justement, je pense que c'est dans le dispositif gouvernemental, le ministère de l'Éducation nationale, c'est un ministère où il faut avoir une connaissance du système, parce que le temps d'apprendre, de trouver, de comprendre les méandres entre les différentes directions, la manière dont les choses se passent. Je pense que vous y mettez 6 mois. Hein.
Alors, on fait juste le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h30 avec Isabelle Pipelot et on continue notre débat.
D'accord.
C'était un militant du devoir de mémoire. Élie Buzyn, l'un des derniers témoins de la Shoah, s'est éteint à 93 ans ce matin. Sa fille, Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, l'a annoncé. Hier soir, après une conférence de témoignages auprès de jeunes, Élie Buzyn a fait un malaise. Anne Hidalgo ou encore Jean Castex ont rendu hommage à ce rescapé du camp d'Auschwitz. Benjamin Mendy, accusé de viol et d'agression sexuelle, plaide non coupable. Le défenseur international français de Manchester City a été entendu devant le tribunal de Chester en Angleterre. Le footballeur de 27 ans nie 9 chefs d'accusation, à savoir 7 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle dénoncée par 6 femmes qui se seraient déroulées entre 2018 et 2021. En Afghanistan, les présentatrices télé jurent de continuer à se battre pour leurs droits. Forcées de couvrir leur visage, samedi, des femmes journalistes ont tenté de défier l'ordre des talibans. Elles sont apparues à l'antenne sans dissimuler leur visage avant de faire machine arrière hier, contraintes de porter le voile intégral.
Dans un instant, on poursuit notre débat à propos du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. On reviendra sur les paroles qu'il a prononcées au cours des dernières années. C'est un historien qui a beaucoup écrit, publié, évoqué un certain nombre de choses dans l'histoire de France. Et visiblement, ça pose question à Maître Goldnadel. On en débat dans un instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. À tout de suite.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Julien Drey et Maître Gilles-William Goldnadel. On s'intéresse à Pape Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, dont la nomination, on l'a dit, a provoqué quelques réactions. On va surtout maintenant s'intéresser à ce qu'il a dit, ce qu'il a théorisé dans un certain nombre de ses ouvrages avec Thomas Chama. Et puis je vous passe la parole ensuite.
Les déclarations faites dans le passé par le nouveau ministre de l'Éducation sur des sujets comme le wokisme, l'islamo-gauchisme ou les violences policières font aujourd'hui polémique. Sur France Inter, après la mort de George Floyd en 2020, un Afro-Américain tué par des policiers aux États-Unis, Pape Ndiaye dresse un parallèle avec la situation française.
L'attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est classique. Il y aurait des violences policières aux États-Unis. En France, il n'y en a pas puisqu'on vous dit qu'il n'y en a pas. Il y a un déni qui commence à s'effriter.
8 mois plus tard, en février 2021, dans une interview au journal Le Monde, l'historien définit le mouvement woke avec bienveillance.
Être woke, c'est être conscientisé, vigilant, engagé. La vraie violence est bien du côté des groupes paramilitaires fascisants et non de celui du woke.
À quelques jours près, invité sur France Inter en plein débat sur l'université, l'enseignant à Sciences Po réfute tout islamo-gauchisme dans les facultés françaises.
Le terme islamo-gauchisme ne désigne aucune réalité dans l'université. C'est une manière de stigmatiser des courants de recherche.
Face aux attaques contre Pape Ndiaye, Elisabeth Borne défend son ministre qu'elle considère proche des valeurs républicaines, portées pendant 5 ans par Jean-Michel Blanquer.
Maître Goldnadel, en quoi est-ce que cet historien, vous, qui a été nommé à l'Éducation nationale, vous pose question ?
Alors d'abord, je voudrais ajouter à ce qui a été dit, il n'y a pas que ça. C'est un monsieur qui a participé à des camps de non-mixité, donc pour le dire autrement, à des camps interdits aux Blancs. Et c'est quelqu'un également qui considère que la France pratique un racisme structurel. Il faudrait le faire, et avec des violences policières.
Il dit qu'il n'y a pas de racisme d'État.
Il dit qu'il y a un racisme structurel. Donc il faudrait le savoir. Il faut que les ONG qui défendent les migrants le fassent savoir aux migrants qui veulent arriver, qui demandent le droit d'asile, que la France est un pays raciste structurellement, n'est-ce pas, et que les policiers sont des racistes violents. Ayant dit cela, moi, très sincèrement, ce monsieur... D'abord, c'est quelqu'un... C'est un universitaire distingué. Mm-hmm. C'est quelqu'un de très intelligent et de très courtois. Moi, dans le passé, j'ai apprécié certains de ses articles sur les États-Unis. Sauf que j'ai vu son évolution, ou plutôt son involution. La réalité, c'est qu'il a été contaminé aux États-Unis par le racialisme. C'est quelqu'un qui soutient, qui était contre le fait que le dictionnaire renonce au mot « race », parce qu'il soutient. Et ce racialisme, il est évidemment dans son esprit pour lutter contre le racisme anti-noir, comme s'il n'y avait qu'un seul racisme. Donc moi, ces positions-là, je ne les connais que trop. J'en ai pris mon parti, j'en fais pas une maladie. Mais quand je vois que le président de la République ou sa première ministre décide, à la place de M. Blanquer, que personnellement, quel que soit son bilan, j'appréciais particulièrement parce qu'il a osé, par exemple, parler d'islamo-gauchisme, et que son successeur prend exactement la position contraire, vous comprenez, en niant même...
Il l'a fait il y a plusieurs mois, oui.
Ça change, je ne vous dis pas qu'il a dit ça hier matin à 9h. Mmh. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que ces positions-là me heurtent. Et il y a encore, pardon, je termine
après,
là-dessus.
On laissera parler.
En l'espace de 48 heures, j'ai eu un débat avec mon sympathique contradicteur vendredi. En l'espace de 48 heures, on est passé du déni à pratiquement l'interdit, parce que le déni étant impossible. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que ceux qui sont contre cette position-là, c'est que l'extrême droite. Hein, Il peut arriver d'ailleurs que Zemmour et Marine Le Pen aient raison, mais ça ne serait que l'extrême droite. J'observe, ils ne le disent pas, mais que Mélenchon et Rousseau l'applaudissent à deux mains. Monsieur, donc ça veut pas dire grand-chose. Les positions des uns... Non, mais ça veut dire...
Ça fait beaucoup de choses différentes.
Pardon ?
Ça fait beaucoup de choses différentes. On va juste laisser Julien Drey peut-être vous répondre sur un des points que vous avez évoqué.
Oui, mais je voudrais revenir sur la notion d'interdit. Ouais,
on va, pas de problème. On reviendra sur la notion d'interdit. Julien Drey.
On me censure.
Oui, c'est, on le voit d'ailleurs.
Oui, ouais, mais c'est vrai.
Ouais. Vous avez une tête... Oui.
Et, je me censure. Je prends sur moi.
Alors, plusieurs choses. Alors, c'est parce que là, il y a... D'abord, moi j'ai regardé, parce que vendredi soir, j'ai avoué d'ailleurs honnêtement que je ne le connaissais pas, j'avais lu un livre, bon, et je n'ai pas aimé la charge...
La condition noire, peut-être.
Voilà, j'ai pas aimé la charge a priori, les jugements négatifs qui s'accumulaient de la part contre lui, en faisant un monstre. Bon, un monstre indigéniste, wokiste, etc. et tout. Je note au passage, c'est juste une parenthèse, qu'Olivier Faure devrait faire attention, parce que c'est, il l'accuse d'être l'instigateur de la pensée woke en France, ce qui n'est pas vrai du tout. Voilà, donc il faudrait qu'il fasse attention, il faut savoir de quel côté il se situe, mais c'est vrai qu'avec Olivier Faure, on a du mal. Bon, je ferme la parenthèse. Moi, j'ai lu après, et je vais vous dire mon sentiment, c'est que c'est un universitaire à la pensée complexe, et elle est tellement complexe que dans le monde politique actuel, il va avoir énormément de mal. Parce que dans le monde politique actuel, c'est binaire, c'est blanc ou c'est noir, c'est le cas de le dire. Voilà. Et donc, dès qu'il est... Pourquoi ? Je vais vous prendre trois exemples. L'affaire du CRAN et la participation. Mm-hmm. Il dit oui, j'ai. Il nie pas, il a été au conseil scientifique du CRAN. Le conseil représentatif des. Je ne me rappelle plus le nom, qui représentait les. Voilà, les personnes noires qui voulaient créer les conditions d'une sorte de lobby pour pouvoir mieux défendre la condition des noirs et lutter contre le racisme systémique. Voilà. Il dit il est au conseil d'administration, il s'en va et il dit ces réunions non mixtes. Finalement, elles sont pas utiles. Il le dit comme ça. Il dit pas j'ai pas été. Ils sont pas utiles parce qu'il faut au contraire avoir des réunions. Tout le monde vient pour être plus efficace dans le combat. Vous voyez donc la difficulté.
Il a changé ça.
Voilà. Sur les races, qu'est-ce qu'il dit aussi? Parce que vendredi soir, j'ai polémiqué avec le présentateur qui me disait mais il a dit il a employé le mot race. Il dit oui, je suis contre qu'on ait supprimé le mot race parce que c'est pas en supprimant le mot qu'on renforcera le combat antiraciste. Donc il reprend pas son compte la notion de race. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Sur les dernières déclarations qu'on voit. Je vais vous dire la vérité, c'est que moi j'attends. Vous allez me dire que je suis peut-être un peu prudent. J'attends de voir comment il va expliquer tout ça. Je vois bien la complexité de son cheminement. Je veux pas lui faire de procès, mais c'est vrai que il est proche de la ligne jaune, si vous me permettez, parce que il me dit par exemple qu'il n'y a pas aujourd'hui dans les universités françaises un courant islamo-gauchiste ou un courant wokiste. On ne doit pas fréquenter les mêmes facultés.
Alors, il dit que c'est pas une réalité dans les universités françaises.
Alors j'allais dire on ne doit pas fréquenter les mêmes universités. C'est vrai que je fréquente plus, mais je fréquente un certain nombre d'universitaires qui me disent eux-mêmes, à commencer par Gilles Kepel, qui est pour moi une référence, qui me disent eux-mêmes quand même qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans les universités qui sont problématiques et qui suscitent, qui doivent susciter un combat idéologique. Donc il est dans cette complexité-là où il va falloir que il ne pourra pas, je dirais, être dans cette nuance tellement nuancée qu'à la fin on ne sait plus exactement où il est. Voilà. Et donc il va falloir quand même aussi qu'il s'occupe de l'éducation nationale, parce que ce qui est ennuyeux, c'est qu'il commence par avoir besoin de se justifier sur un certain nombre de choses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il va réformer le bac, s'il ne va pas réformer le bac, s'il va réformer le contenu dans l'enseignement pour qu'il soit efficace. Mmh. La question des effectifs est la question la plus importante. C'est est-ce qu'il va trouver des profs à la rentrée? Absolument. Parce que c'est quand même ça auquel il va falloir répondre.
Alors, il ne s'est pas justifié pour l'instant. Il s'est juste rendu à Conflans Sainte-Honorine pour rendre hommage à Samuel Paty, vraiment, encore une fois, en rappelant son engagement pour la laïcité et l'universalisme. Vous voulez rajouter quelque chose, Maître Bonnadet, sur la notion d'interdit?
Je reconnais bien volontiers, et sans barguigner, que c'est un racialiste modéré. Il n'y a pas de doute, ce n'est pas un excité, ce n'est pas un agressif, mais pour autant, je considère que ses positions sont intellectuellement détestables. Je considère que c'est infamant de considérer que la France, si accueillante, sans doute à l'excès, pratique le racisme structurel, très sincèrement. Et quelqu'un qui dit que Madame Assa Traoré a un discours rassembleur, pardon, ne peut pas être totalement considéré comme lui-même rassembleur. C'est pas possible. C'est pas possible. Après avoir dit ce qu'il a dit sur la police française, ça fait quand même beaucoup de choses pour un seul homme, fut-il distingué. Je veux ajouter quelque chose.
La notion d'interdit, peut-être.
Sur la notion d'interdit. Parce qu'en 48 heures, comme le déni commençait à être impossible au regard de toutes ces déclarations et même de toutes ces actions. Alors on a commencé à dire c'est l'extrême droite, le monsieur Beaune a expliqué que ceux qui s'en prenaient à lui étaient xénophobes. Très bien. SOS Racisme a fait encore mieux en disant que c'était la fachosphère qui se déchaînait et demandait même à ce qu'on dénonce d'ores et déjà à l'avance les discours qui viendraient à surgir sur les réseaux sociaux. Autrement dit, la réalité, c'est qu'alors, la vérité, c'est qu'on ne pourrait pas le critiquer parce qu'il est noir. Je ne sache pas que quelqu'un ait osé dire que si on critiquait Zemmour, c'est qu'on était antisémite, vous voyez. Moi, la seule chose que je vois, la seule chose dont je sois sûr, c'est que d'interdire à des Blancs de critiquer librement des intellectuels noirs qui participent à des réunions interdites aux Blancs, ça, je suis bien sûr que c'est raciste.
Non, mais là, vous êtes en train de franchir le Rubicon, comme on dit.
Ouais.
Parce qu'il a... J'ai regardé, parce que moi, ouais, quand vous dites des choses, quand on me dit des choses, je prends le temps de vérifier. J'ai regardé ses déclarations, il ne fait pas l'apologie des réunions non mixtes. Il n'y a aucune de ses déclarations où il dit qu'il faut faire des réunions non mixtes. Il dit l'inverse. Il dit que ces réunions-là peuvent... ces réunions-là, ouais, vous pouvez retrouver les textes. J'ai fait l'erreur. Je reconnais tout à l'heure en partant, parce que je les avais mis de côté, je les ai oubliés.
C'est regrettable.
Mais je prends date. Oui, comme on a un autre rendez-vous, je reviendrai avec les déclarations et je vous les donnerai. Ouais. Voilà. Ça, comme celle sur la race, etc. J'apprends qu'il a dit que Assa Traoré a eu un discours rassembleur. Celle-là, je ne l'avais pas encore vue.
Ah ouais.
Mais bon, je suppose qu'on va en avoir droit comme ça un certain nombre de. Les unes après les autres. Est-ce que j'ai dit que ça a été bien ?
Non, mais
on va pas, faire Jules Ferry,
Méfiez-vous. Revenons à nos moutons.
Alors après, il y a un débat sur cette histoire. Si vous me permettez, je voulais revenir. Cette histoire de structurel ou de systémique, parce que franchement, vous connaissez l'expression sur, je vais pas l'employer à la télévision parce qu'il y a des oreilles chastes, mais
et à la radio encore moins.
Et à la radio. Mais franchement, la question est posée. Est-ce qu'il y a des violences policières ? Oui. Est-ce que c'est un système ? Non. Voilà. Est-ce que c'est structurel ? Non, c'est pas structurel. Mais ça n'empêche qu'il y a des violences policières. Donc, et d'ailleurs, lui-même, il a des expressions qui sont ambiguës. Parce que c'est un universitaire. Et quand vous connaissez ces universitaires qui travaillent là-dessus, ils sont prudents, ils font attention, ils soupèsent, ils pèsent, etc. Et tout. Donc, on va voir la réalité des choses. Maintenant, c'est sur le plan politique sur lequel je voudrais conclure. Ce qui est vrai, c'est que quand on regarde la composition du gouvernement, il y a une inflexion politique. Il y a une inflexion politique nette. Je pense d'ailleurs qu'il y en a certains qui doivent l'avoir mauvaise, si vous me permettez, à gauche et surtout au printemps républicain aussi. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont roulé pour un candidat qui a changé. Il y a une inflexion, c'est très net. Le choix qui a été fait, alors c'est un choix certainement aussi en fonction de la lecture des résultats, d'une volonté de déstabilisation d'une partie de la gauche ou de récupérer les loulous des quartiers, comme je l'ai entendu dire par certains responsables de La République En Marche. Là, il y a une inflexion très nette. Et si vous voulez, mon sentiment, c'est que le président de la République, sur le fond, qui a été formé par des grandes écoles, il est plus proche de cela que de la tradition républicaine traditionnelle. Lui, il considère que le système anglo-saxon n'a pas toutes les tares qu'on veut bien lui donner. Il considère aussi que le système républicain a aussi ses difficultés. Donc le débat va forcément avoir lieu, mais je comprends que l'honnêteté intellectuelle consiste à dire qu'on ne peut pas dire qu'il ne s'est pas passé quelque chose.
Un dernier mot là-dessus, après on avance, on parle de lui.
Factuellement, je suis obligé de contredire Julien. Non seulement il n'a pas totalement critiqué les réunions interdites aux Blancs, il a été chèvre et chou, et il a participé, c'est pire encore.
C'est pas un crime, maître.
Mais qui vous dit que ça n'est certes pas un crime, mais vous comprenez que ça ne me le rend pas forcément sympathique politiquement.
Non, mais il a participé au conseil scientifique du CRAN au départ,
non,
et
je
il
vous
a
parle
quitté
pas de
ce conseil scientifique.
De...
C'est pour ça qu'il a participé à une réunion. Parce que
il était invité par syndicat Sud Éducation, avec lequel j'imagine maintenant il collaborera harmonieusement. Là où je rejoins Julien Drey, c'est qu'effectivement, c'est un coup politique pour piquer un peu de voix à la gauche unie sans se soucier de la réaction de la droite stupidement désunie. Et que d'autre part, je suis bien d'accord que quelqu'un qui considère que la France a commis des crimes contre l'humanité en Algérie, qu'il n'y a pas de culture française, que c'est stupide de demander dans les banlieues à un blanc un rapport sur les banlieues, est sans doute plus proche de M. Ngueï que de M. Blanquer.
Bon, là, on a eu de la totale.
Voilà, c'est le dernier mot, Julien.
La France a commis des crimes en Algérie.
Contre l'humanité. Bon.
Non, contre pas contre l'humanité, mais quoi.
Oui, mais c'est, ça change tout.
Oui, d'accord.
Mais ça change tout.
Oui, je sais.
Dans la queue le venin.
Et il faut aussi savoir faire la part des choses. Maintenant, je pense que les semaines à venir vont être nécessaires pour le ministre de l'Éducation nationale pour clarifier les choses, parce qu'il rentre dans une autre sphère, sur le fond. Il rentre dans une sphère qui est directement politique et où il ne pourra pas être simplement dans la nuance et dans la prise en considération des différentes opinions pour faire une sorte de synthèse, ce qui est quand même le rôle, en général, des universitaires. Et donc, on va falloir le juger d'abord sur sa politique en tant que ministre de l'Éducation nationale et après qu'il clarifie les choses. Mais il y a une chose sur laquelle, par contre, je suis en total désaccord, je le dis ici ce soir, ce n'est pas vrai que dans les universités, il n'y a pas aujourd'hui une pression très forte de l'idéologie anglo-saxonne et qui fait régner parfois dans un certain nombre de campus, non pas des formes de terreur, mais des formes de dictature intellectuelle.
Alors, affaire à suivre, et on aura l'occasion d'y revenir dans Punchline. J'aimerais qu'on garde quelques minutes pour parler de l'Ukraine. Le président Zelensky s'est exprimé cet après-midi devant le Forum économique à Davos, en Suisse. Écoutez ce qu'il dit à propos des sanctions. Il souhaite des sanctions maximales contre la Russie.
Il faut des sanctions maximales pour que la Russie ou n'importe quel autre agresseur potentiel qui envisagerait une attaque brutale de ses voisins, sache tout de suite les conséquences auxquelles il s'expose. Il faut un embargo sur le pétrole russe, un blocage de toutes les banques russes, sans exception, partout.
Julien Drey, la guerre en Ukraine se poursuit et la Russie est en train de marquer des points importants en ce moment.
Militairement parlant, la Russie a redéployé son dispositif et on voit bien que ce qu'elle croyait être une opération facile s'est avéré extrêmement compliqué et qu'ils ont maintenant des objectifs beaucoup plus limités certainement que ce qu'ils escomptaient au point de départ. Maintenant, je pense que le gouvernement ukrainien le sait et l'a compris et qu'on s'approche d'un moment où il faudra que les diplomates discutent. Et l'idée du président Zelensky, visiblement, c'est d'essayer de faire monter le plus possible les choses. Peut-être en complexifiant encore plus la discussion. La question qui est simple, il y aura forcément à un moment donné une discussion, dans une discussion il y aura des compromis, et il faudra trouver un terrain d'atterrissage. On ne va pas entraîner, je le dis cyniquement parlant, le monde dans une guerre mondiale, sans avoir pris le temps d'essayer de trouver une solution de paix. Or, tous les signes montrent, y compris, je m'excuse de le dire, ça va peut-être choquer quelques bonnes consciences sur d'autres chaînes de télévision que je vois le soir et qui prônent la guerre totale avec des convictions réelles, même y compris dans la fameuse usine, vous avez bien vu que...
D'Azovstal.
Vous avez bien vu, j'arrivais pas à prononcer le nom, donc j'avais besoin de... Vous avez bien vu que, on sait ce que c'est que les Russes quand ils veulent, hein, ils ont pas fait n'importe quoi. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils donnent, c'est des messages indirects qu'il faut être capable de comprendre. Les messages indirects, c'est que la Russie a foiré son opération telle qu'elle espérait. Elle essaye de sortir la tête haute. Il ne s'agit pas de lui donner victoire, mais il s'agit d'essayer de trouver une solution pacifique, une solution à ce conflit qui permette la paix.
Diplomatique.
Voilà, diplomatique. Mmh. Voilà, excusez-moi. Mais je vois bien que ça va être très difficile. Parce que, comme on va rentrer dans un monde bilaire, dire ça, ça va, dans les heures qui viennent, on va vous dire, ça y est, vous êtes devenu poutinien, vous n'avez pas compris, cet homme-là est un tyran, etc. Mais des tyrans sur la Terre, je vous en désigne un certain nombre, hein. Bon.
Maître Golnadel, sur cette
Le débat va pas être très marrant parce que je suis à 90% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça m'empêche évidemment pas de condamner sans phrase l'agression indéfendable de Poutine. Pour le reste, évidemment, on va pas faire une... Mais Zelensky est dans son rôle aussi. Il manquerait plus que... Bien sûr qu'il fait monter les enchères. Il est parfaitement... Non. La position qui me heurte le plus en dehors de celle de la Russie, c'est celle des États-Unis. Monsieur Biden est en train de se refaire une santé politique et militaire et économique et tout ce que vous voulez sur le dos des autres et peut-être de la paix. Il était à la rue, il s'était conduit de manière épouvantable en Afghanistan et là, il joue les fiers à bras. C'est en disant que du coup la Russie va devoir payer pendant des années et des années, ça ne me paraît pas très raisonnable.
Julien Drey.
Non, mais moi, je pense que le vrai problème, il est là. C'est que les Américains, au départ, ont laissé faire. Est-ce qu'ils ont intoxiqué ? Parce que c'est possible aussi qu'ils aient intoxiqué. Je signale que dans la première guerre entre l'Irak et le Koweït, c'est l'ambassadeur des États-Unis qui, au départ, dit à Saddam Hussein « Oui, c'est, vos revendications sont légitimes sur les fameux puits de pétrole. » Et Saddam Hussein considère que les Américains lui ont donné le feu vert. Et donc, il se lance dans cette opération et par la suite, on sait ce qui s'est passé. Donc, est-ce qu'ils ont intoxiqué avec les CIA ? Je me méfie, toujours, par principe. Voilà. Est-ce que, y compris les services secrets russes n'ont
ils
pas...
Ils auraient dit aux Russes, vous pouvez y aller, ça n'aura pas de conséquences.
Et d'un certain point de vue, ils l'ont dit au départ. Puisque les déclarations de M. Biden, c'est de dire, quoi qu'il se passe, on ne fera rien. Bon, donc ça veut dire quelque part à M. Poutine, bon, bah, si tu le fais, on haussera le ton, mais on ne fera pas ce qu'on est en train de faire. Or là, ils sont en train de livrer massivement des armes. D'ailleurs, la question va se poser, est-ce qu'on n'est pas en train de recommencer les mêmes erreurs qui ont été commises en Syrie ? Parce qu'on livre des stocks d'armes. On ne les livre pas à l'armée ukrainienne. On les livre à un certain nombre de régiments qui sont des milices qui sont dans le cadre...
Quasi autonomes.
Voilà, quasi autonomes, avec un armement considérable. Je vous signale que beaucoup de militaires sur cette chaîne ont eux-mêmes dit attention à ce qui est en train de se passer.
L'Ukraine étant l'un des pays les plus corrompus d'Europe.
Merci à tous les deux d'avoir participé à ce Punchline et à nos débats. Dans un instant, je vous retrouve sur Europe 1 pour les débats de Punchline. Et dans un instant, c'est Christine Kelly qui vous accueille sur CNews avec ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes.
Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir.
Éditorialiste politique avec Bruno Jeudy. Bonsoir.
Bonsoir Laurence.
Du journal Paris Match, l'hebdomadaire Paris Match. On va parler du premier conseil des ministres ce matin autour d'Elisabeth Borne avec déjà cette polémique autour de Damien Abad, accusé d'agression sexuelle et de viol. Écoutez-le, il y a quelques instants, il a pris la parole pour se dire innocent et exclure de démissionner.
Je conteste les accusations à mon encontre avec la plus grande des fermetés. Toutes les relations sexuelles que j'ai pu avoir dans ma vie ont toujours été mutuellement consenties. Ces accusations m'infligent, comme à mon entourage, une blessure profonde. J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant. J'étais contraint, malheureusement, de le faire aujourd'hui pour me défendre et même de dévoiler mon intimité en détail en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles. Ce sont ici ma dignité et mon intégrité qui s'en trouve atteinte. Je le répète avec fermeté, je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Vous comprendrez qu'aborder ces sujets publiquement est extrêmement douloureux pour moi. Désormais, je me consacre à ma mission de ministre, un ministre qui souhaite être sur le terrain, au plus près de la vie quotidienne des Français, garder les pieds sur terre, et je suis aussi pleinement engagé dans ma campagne législative comme candidat dans la 5e circonscription de l'Ain. Un homme innocent doit-il démissionner ? Je ne crois pas.
Voilà pour les déclarations de Damien Abad. Bruno Jeudy, est-ce que c'est une boule puante qui accompagne l'arrivée de Damien Abad au gouvernement ou est-ce qu'il y a une affaire Abad pour vous ?
Je ne sais pas si c'est une boule puante. Je ne sais pas si c'est une affaire Abad. Il y a eu deux plaintes. Il y en a une qui a été classée sans suite. Il y a deux affaires, en fait, et une autre affaire où il n'y a pas eu de plainte. La victime songe peut-être à en déposer une, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Damien Abad s'est défendu. Je constate deux choses à ce stade. D'abord, c'est une polémique qui vient totalement brouiller la séquence du nouveau gouvernement. Et donc, c'est un coup dur pour la nouvelle équipe d'Emmanuel Macron, l'équipe dirigée par Elisabeth Borne. J'ai entendu Elisabeth Borne hier sur un ton manifestement très agacé. Et on comprend que l'entretien avec Damien Abad n'a pas dû très bien se passer hier. Et deuxième chose que je constate, c'est ce qu'a dit la porte-parole à la mi-journée, Olivia Grégoire. Qui a dû affronter toutes les questions. Je crois que à peu près un tiers plus d'un tiers du compte-rendu a été consacré aux questions sur Damien Abad, ce qui est aussi une mauvaise nouvelle pour le début de ce gouvernement. Et j'ai pas entendu qu'elle ait évoqué par exemple la notion de présomption d'innocence. Elle a parlé directement a rappelé le zéro impunité. Pourquoi ? Parce que la cause des femmes, les violences faites aux femmes, les atteintes aux femmes, ça fait partie des priorités de ce quinquennat et du président de la République. Donc on voit bien l'embarras dans lequel se retrouve le gouvernement. Il y a une mécanique qui se met en place, on la connaît, ça va être très compliqué pour Damien Abad. Sera-t-il en mesure de pouvoir exercer sa fonction de ministre des Solidarités? Je ne sais pas s'il est en mesure de le faire aujourd'hui. On voit bien que c'est compliqué médiatiquement.
Personnellement aussi.
Personnellement, François de Rugy, pour une affaire, l'affaire dite des homards, il y a quelques années, il avait quitté le gouvernement assez rapidement.
Jean-Claude Dacier, il peut tenir Damien Abad? On va écouter Christian Jacob dans un instant.
Ce sera difficile parce qu'on se demande s'il y a un peu de politique là-dedans, ce que je ne suis pas loin de croire. La deuxième plainte peut arriver. Bon, pour le reste, j'ignore tout. Je n'en sais rien. Mais j'ai du mal à croire quand même que cette affaire dont on parlait, paraît-il, de temps en temps, chez les assistantes parlementaires... ça fait 10 ans quand même, hein.
Jean-Claude, je vous rappelle quand même que Christian Jacob, président des Républicains, qui fut son président de groupe en 2017, avait convoqué Damien Abad pour en parler, pour lui demander de
si
s'expliquer.
Vous permettez, on va peut-être écouter
normal.
Christian Jacob.
Oui, bien sûr, c'est normal.
Justement, on écoute Christian Jacob et je vous repasse la parole. Je ne sais pas si on l'a, on l'écoute.
Ça, la justice le dira, c'est à lui de savoir s'il est innocent ou pas. Moi, je ne suis pas juge. Simplement, les plaintes qui ont été déposées sont lourdes. La pression est là. Maintenant, c'est à lui, en son âme et conscience, hein, de se regarder dans la glace et de savoir ce qu'il a à faire.
En tant que président LR, vous aviez entendu, on vous avait alerté sur cette situation, sur un comportement?
Non, il y a eu des rumeurs qui avaient circulé en 2017. Je l'avais à l'époque interrogé, il m'avait dit que tout cela était faux, d'ailleurs qu'il n'avait eu aucune convocation, et depuis, on n'a pas les moyens d'avoir... On a moins de moyens que vous, on n'a même pas de carte de presse pour avoir les informations.
Voilà, Christian Jacob au micro de Frédéric Michel. Jean-Claude, il dit les plaintes sont lourdes.
Oui, c'est faux, parce qu'il y en a une et pas deux, donc il n'y a pas de pluriel en l'occurrence.
La première a été classée
sans suite deux fois. Sans suite deux fois, bon. Mais bon... Bon, sur Jacob, c'est une prise de guerre, peut-être modeste, entendons-nous, mais c'est quand même une prise de guerre.
Non, c'est une belle prise de guerre, c'est pas
si
modeste.
Vous voulez,
c'est
si...
le président du premier groupe d'opposition dans l'Assemblée sortante.
Donc ça peut aider à comprendre les propos de M. Jacob. Moi, j'ai du mal à croire, si vous voulez, que cette affaire, encore une fois, dont on parlait... De temps en temps, j'imagine, ce n'était pas le sujet quotidien à l'Assemblée nationale. Du mal à croire que ça tombe totalement par hasard, à quelques jours des élections législatives, et surtout au lendemain ou au surlendemain de la constitution du nouveau gouvernement du président de la République. C'est un coup dur pour Mme Borne. C'est clair que ce n'est pas quelque chose de très agréable à gérer quand on vient d'arriver. Donc je pense qu'il y a aussi, sans doute... côté des centristes qui ont vu Abad les abandonner pour rejoindre cette grande formation au centre de la vie politique française. J'ai du mal à croire que tout ça tombe complètement et totalement par hasard. Moi, je crois à la sincérité de M. Abad. Il vit son handicap chaque seconde de sa vie. Mais enfin, vous l'avez... Il est dans une situation qui, j'imagine, je ne sais pas si ça le fait souffrir ou pas. Mais il faut peut-être aussi penser à cela... Il a une vie, il est nommé en plus ministre des handicapés, lui sait de quoi il parle. Il est handicapé lourdement. Qu'on lui mette ça sur les épaules pour quasiment l'obliger à démissionner, parce que votre question initiale était est-ce qu'il va pouvoir tenir le coup, peut-il rester ? Je pense que
ça va être
probablement assez difficile.
Mais je crois qu'en l'occurrence, je
lui souhaite de pouvoir continuer, parce que Darmanin a connu une situation très proche, il a tenu le choc.
Oui, mais
pour l'instant, l'opinion
oui,
est...
mais Jean-Claude, la situation est différente. D'abord, Darmanin, ça n'arrive pas au premier jour du gouvernement. Ça intervient beaucoup plus tard.
Oui, mais quand même, ce n'est pas une bonne nouvelle
pour Darmanin. Là, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron fait peut-être un bon coup politique en récupérant Sauf qu'il ne connaissait pas exactement la situation personnelle de Damien Abad. Il découvre ça, apparemment. Moi, je crois à la sincérité, pour le coup, d'Emmanuel Macron, ils avaient de bord. Ils ne devaient pas être au courant, même s'il y a eu des problèmes de mail ou je ne sais pas quoi. Mais peu importe, sinon, il ne se serait pas mis dans ce bourbier. Parce que c'est un bourbier politique, ce qui va se passer. Peu importe. Et je crois que ça n'a rien... Et je crois que ça n'a rien à voir avec la situation de handicap que vit Damien Abad.
Mais si vous une seconde à sa place, mais vous vous rendez compte que c'est quelque chose de lourd.
Mais ça n'a rien à voir. C'est que si on vit dans une autre époque, Jean-Claude. Simplement, s'il y a eu... S'il y a eu des plaintes, peut-être, on verra s'il a, ce que
oui, on verra quand même.
Mais là, politiquement, c'est un bourbier.
Avant de l'emmener à l'abattoir. Voyons les faits.
C'est un bourbier pour la première ministre. Ben non, j'exagère pas.
Que les médias s'en emparent, c'est naturel et c'est normal. Les paroles des femmes doivent être entendues. Elles l'ont été entendues il y a 10 ans. Il y a eu des enquêtes, si j'imagine, qui ont été faites 2 fois classées sans suite. Moi, je veux bien que ça soit le scandale de la décennie. J'incite alors, chacun à la prudence et à la modération.
On fait une toute petite pause. On écoutera Marine Le Pen,
la politique
qui s'est exprimée sur cette affaire d'Amir Abad. À tout de suite sur Europe 1.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier et Bruno Jeudy. On écoute Marine Le Pen à propos de l'affaire d'Amir Abad.
On apprend aujourd'hui, où les langues se délient à LR, que Damien Abad était connu au sein de son propre groupe pour avoir multiplié les comportements ou les propos inappropriés à l'égard des femmes. Il est difficile d'imaginer que ni Emmanuel Macron, ni Elisabeth Borne n'aient pu à tout le moins entendre parler de ces comportements inappropriés. Je me positionne pas d'ailleurs sur une éventuelle enquête que je laisse à la justice, mais le simple fait d'avoir de manière récurrente un comportement inapproprié avec les femmes devrait vous écarter d'un poste, en l'occurrence, de ministre.
Marine Le Pen, au micro de Victor Chabert. Voilà. Est-ce que le président et son entourage le savaient, Bruno Jeudy ?
Moi, je pense qu'ils ne le savaient pas, sincèrement. Pourquoi ? Parce que ils avaient vu ce risque, ils n'auraient pas nommé, et Damien Abad ne serait pas dans l'équipe aujourd'hui d'Elisabeth Borne. Et on voit bien comment a réagi Elisabeth Borne. Moi, je pronostique que...
Elle peut poser un acte
l'idée
d'autorité.
Qu'elle en fasse un acte d'autorité. Parce que d'abord, on l'a bien vu, hein, la façon de s'exprimer sur le sujet, c'est pas, il n'y a pas la présomption d'innocence, il n'y a pas tout ça. C'est tout de suite, elle rappelle que c'est une question centrale, fondamentale, qu'elle en fait une pierre d'achoppement de son action. Derrière, il y a Olivier Grégoire qui rappelle l'impunité zéro. On parle pas du tout de présomption d'innocence, on n'est même pas dans la situation de François de Rugy quand il a été attaqué aux premières heures sur l'affaire dite des
Homards. Je vous rappelle qu'au plan judiciaire, il n'y a rien. Au plan judiciaire.
Absolument.
Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien dans le dossier.
Je n'ai pas dit le contraire.
Alors, on peut parler, là, on s'en fout pas. Et on en fait un personnage quasi monstrueux. Bon, soyons peut-être un peu plus loin.
Non, on ne fait pas un personnage monstrueux. Simplement, aujourd'hui... vous êtes dans une époque où peut-être qu'il faut laver plus blanc que blanc, on pourrait en parler dans une autre émission, mais aujourd'hui vous êtes dans cette situation-là, un gouvernement qui commence 3 jours de polémique.
Il faut remettre une au plus vite.
La première, c'était donc
La première, c'est pas Pendia, le premier jour.
C'est un choix politique qui
crée une polémique. Mais il y a une deuxième polémique, c'est Abad. Je pense qu'ils vont essayer d'en nettoyer une des deux.
Ils sont là pour 5 ans. Enfin, le président,
pas
en tout
Pendia,
cas.
Pendia, polémique, ok. Mais pour l'instant, le ministre n'a pas posé d'acte. Est allé ce matin au collège de Conflans-Sainte-Honorine, où Samuel Paty a été assassiné. Il met son action sous les auspices de la laïcité, du rassemblement. Attendons peut-être, effectivement.
Je suis absolument d'accord.
De ceux qui ont à la fois connaissé bien la pensée de cet homme-là et attendons qu'il pose des actes.
Je suis absolument d'accord avec vous, Laurence. Il y a le Pape Ndiaye universitaire, éminent historien, qu'on peut discuter. C'est un spécialiste des minorités, des questions d'immigration. Il a pris des positions, évidemment, qui ont été immédiatement relevées, fustigées par l'extrême droite et une partie de.
Mais influencées aux États-Unis, il n'y a pas de problème.
Après, il y a le ministre. Moi, il faut voir le ministre en action, le ministre qui va devoir appliquer un programme, celui d'Emmanuel Macron, qui est un programme qui comprend des choses qui vont sans doute être difficiles à faire passer auprès des profs. Et on voit bien que le choix d'Emmanuel Macron, qui est le choix d'un anti-Blanquer, c'est d'abord de renouer avec la communauté enseignante pour pouvoir sans doute faire passer son programme. Quant au premier pas du ministre, je trouve que c'est plutôt excellent d'aller dans le collège où est enseigné le professeur Paty, affreusement assassiné, décapité par un islamiste.
Jean-Claude Dacier.
Oui, moi je ne vais pas faire ce que je reproche à certains de faire avec l'homme dont on parlait tout à l'heure il y a une seconde. Je vais donc le laisser, c'est normal, s'installer, prendre un certain nombre de décisions, voir comment est constitué son cabinet, et puis voir quelles sont ses déclarations et ses premières décisions. Pas de procès avant qu'il ait
même... Nous sommes d'accord.
On est d'accord. Mais, quand même, c'est un chercheur, c'est un universitaire qui a été longtemps aux États-Unis, qui a écrit des choses, qui a dit des choses. Et ma question, moi, le seul au fond qui m'intéresse vraiment, c'est pourquoi le président de la République a-t-il brutalement rompu avec Blanquer ? Parce que ça ressemble, je dirais pas à un licenciement, n'exagérons rien. Enfin, il a fait 5 ans où il a tout le monde pense, en tout cas, les laïcistes et les républicains pensent qu'il a fait globalement de l'excellent travail. Et que les syndicats de l'éducation nationale ne partagent pas ce point de vue me rassure plutôt, parce que où vous co-gérez l'éducation nationale avec les syndicats, et là vous n'avez pas de problème.
Il ne se passe rien.
On voit les résultats, il ne se passe pas grand-chose, et les résultats de l'éducation nationale, comme chacun sait, sont brillants, ce n'est pas la peine d'insister. Ou vous avez quelqu'un qui va, au fond, travailler en bonne entente avec eux. Ma question, moi, la seule qui m'intéresse, c'est pourquoi le président de la République a-t-il choisi cet homme, très respectable, très brillant là-dessus, il n'y a pas de débat, pour marquer une telle rupture avec le travail qu'a fait M. Blanquer.
Il y a deux explications.
J'ai la mienne, je vous la dirai après.
Non, mais il y a deux explications. Il y a une première explication qui a d'ailleurs été livrée par Emmanuel Macron pendant la campagne. En gros, Jean-Michel Blanquer a fait un bon travail, je suis de ceux qui l'ont défendu. Notamment le dédoublement des classes, la mise en avant de la question de la laïcité.
Il
a raté la réforme du bac, Jean-Claude, qu'on le veuille ou non. Réforme du bac, elle a fait l'unanimité contre elle. Même les parents d'élèves qui étaient plutôt en soutien de Jean-Michel Blanquer, on le voit bien. Qu'a dit Emmanuel Macron ? Nous allons remettre des maths dans le tronc commun du bac.
Oui.
Parce qu'il n'y avait plus de maths.
D'accord.
Et ça, c'est une erreur.
Jean-Michel
Blanquer, il n'aimait pas,
pas
qu'on le lui dise, mais n'empêche que pendant la campagne... Donc ça, c'est la première raison.
Oui.
La deuxième raison, c'est que le programme d'Emmanuel Macron est un programme qui repose... C'est essentiellement accompagner la transformation du métier de prof. Donc ça veut dire qu'il faut parler avec les profs et les syndicats d'enseignants. Or, Jean-Michel Blanquer, pendant 5 ans, a plutôt été le ministre des parents d'élèves que le ministre des profs. Et il a sans doute eu raison, parce qu'il y avait un certain nombre de transformations à faire. Passer par les syndicats, c'est difficile. Bon. Mais là, il faut forcément renouer un peu avec la communauté des enseignants. C'est ce que veut faire Emmanuel Macron en nommant Pape Ndiaye. On verra ce qu'il fait, je suis d'accord avec vous. Il y a de l'argent à distribuer, mais en gros, pour faire simple et un peu caricatural, c'est travailler plus pour gagner plus avec les enseignants. Il y aura une revalorisation, mais pas pour tous les enseignants. Et donc là, évidemment, ça va coincer. Et puis vous avez la deuxième question, qui est la question de l'autonomie, qui évidemment fait plutôt unanimité contre elle dans le milieu enseignant. Donc Emmanuel Macron a choisi cet homme pour essayer de mener ses... On verra si ça marche.
Je vais risquer une petite explication complémentaire qui vaut ce qu'elle vaut. Je pense que les idées, au fond, de M. Ndiaye sont plus proches de ce que pense vraiment le président de la République.
Peut-être, ouais.
Souvenons-nous, je ne veux pas les rappeler, c'est un peu gênant, les déclarations incroyables qu'il a pu faire sur le colonialisme et le comportement des Français en Algérie, etc., etc. Il y a des preuves de déclarations qui nous ont échappé, et qu'il ne ferait plus d'ailleurs aujourd'hui. Je pense qu'il ne se souviendrait davantage. Je pense qu'il est plus proche des sociétés à l'anglaise ou à l'américaine, dans une espèce de composition, comment dire, pas universaliste justement, mais il croit que l'addition d'un certain nombre de communautés, si on s'y prend bien, sont un enrichissement. Il est plus près des communautaristes que des républicains laïcards qui défendent mordicus le système français.
C'est pas ce qu'il a montré. Enfin,
Je dis simplement que.
Mais je suis d'accord avec vous. Peut-être que c'est son engeance.
C'est son truc. Il pense ça, au fond. Intellectuellement, c'est un libéral. C'est un gars qui pense que toutes les communautés peuvent apporter des choses et c'est un enrichissement. Au fond, je suis pas sûr qu'il croit encore aux vertus. Là, je m'avance peut-être un peu durable d'une société comme la nôtre, qui étonne, hein. En Angleterre, aux États-Unis, dans les pays libéraux, on se dit, mais qu'est-ce que fabriquent les Français avec cette société laïque qui ne veut pas dire grand-chose Je pense qu'ils préfèrent une société communautaire où chacun apporte quelque chose. J'en suis pas tout à fait sûr. Réponse dans quelques jours,
écoutez,
quelques semaines.
Marine Le Pen sur Pape Ndiaye. Écoutez sa réaction.
La réalité, c'est qu'il est un indigéniste. Entouré d'indigénistes, c'est la République Assa Traoré. Voilà. C'est cela qu'il porte. Et évidemment, c'est d'autant plus catastrophique qu'il est à la tête de l'éducation nationale. Et à la tête de l'éducation nationale, nous avons légitimement toutes les inquiétudes sur l'impulsion qui va être la sienne dans les enseignements qui sont délivrés à nos enfants et à nos petits-enfants. Oui, c'est une vive inquiétude. Et je vous mets, c'est même un cauchemar. C'est même un cauchemar. Et cette provocation est indigne de la part d'Emmanuel Macron.
Rapidement, Bruno Jeudy, sur ce que vient de dire Marine Le Pen.
Ce sont les campagnes législatives. C'est la campagne qui... Et évidemment, Marine Le Pen a trouvé là un angle d'attaque vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Et évidemment, un angle d'attaque qui correspond parfaitement à ce qu'elle pense, elle. Éric Zemmour est sur le même créneau. Et à mon avis, une partie des Républicains sont aussi sur ce créneau-là. Il n'y a que 20 jours pour la campagne. Donc, ils ne vont pas
se gêner.
Soyons positifs en quelques secondes. Il se passe des choses qui sont devenues inacceptables dans les classes. Parce qu'il y a des jeunes... arrivant et enfants de l'immigration pour beaucoup d'entre eux qui n'acceptent pas l'éducation nationale telle qu'elle se comporte, telle qu'elle souhaite enseigner un certain nombre de choses, même au plan historique. Peut-être que le président de la République espère que par un discours, par une position, par une attitude plus positive, plus communautariste, disons le mot, plus ouverte en tout cas, plus ouverte au communautarisme, il est possible qu'il espère que ce nouveau ministre saura amener, je ne dis pas le calme dans les classes, n'exagérons rien, mais une meilleure compréhension de tous.
Eh bien écoutez,
on verra ça.
Nous allons suivre cela sur Europe 1. Merci à tous les deux, Bruno Jeudy, Jean-Claude Dacier. Dans un instant, service pionnine sur Europe 1, radio officielle du tournoi de Roland-Garros. A tout de suite.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.